Éternel, merci parce que ta parole est vivante, merci parce que tu la rends vivante par ton esprit. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs ce matin, merci de garder mes paroles, et que Seigneur chacun puisse être encouragé et fortifié dans sa foi et sa marche avec toi. Amen. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder un texte biblique qui est connu, en tout cas qui est... Oui, voilà, qui est connu, vous allez voir, au-delà de notre Église. Certains textes bibliques, certaines histoires, certains personnages sont largement connus ici, mais au-delà aussi dans notre société. Et par exemple, où que vous cherchez, à Cavaillon ou ailleurs, vous trouverez toujours d'une manière ou d'une autre une association dite des bons samaritains. Une association dite des bons samaritains pour venir en aide aux personnes en difficulté. Et partout, la parabole du bon samaritain... Le bon samaritain est un exemple d'entraide et de compassion. En tout cas, c'est comme ça qu'il est connu. Mais son sens véritable, le sens de ce passage, reste parfois méconnu. Et donc c'est pour ça que je vous propose de relire ensemble ce matin cette parabole que vous devez plus ou moins connaître. Et on va surtout bien voir le contexte dans lequel elle est donnée, dans lequel Jésus est amené à donner cette parabole. Nous allons ensemble découvrir, redécouvrir certaines choses dans ce passage. Je vous invite à lire l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Luc 10, verset 25, je lis dans la version second 21. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même, aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » Verset 37, « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. » Jésus lui dit, « Va agir de la même manière, toi aussi. » La première partie, si la parabole du bon samaritain est connue, en tout cas, tout le monde en a entendu parler, le contexte dans lequel elle est donnée l'est beaucoup moins. C'est celui d'une question, initialement, vous l'avez vu, le premier verset, celui d'une question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Dans notre passage du jour, cette question est posée par un spécialiste de la loi, comme un piège tendu à Jésus, ou plutôt comme un test. Va-t-il se contredire ? Va-t-il s'opposer à l'Ancien Testament ? Est-ce que ce Jésus est un si bon enseignant que ça ? C'est un test. Il veut le mettre à l'épreuve. Et au final, le spécialiste de la loi ne pose pas cette question de manière personnelle pour lui, comme s'il était personnellement intéressé par hériter, de savoir comment lui-même hérité de cette vie éternelle. Mais même si c'est une question piège, une question test, C'est une bonne question que tous devraient se poser. Comment faire pour hériter de la vie éternelle? Non seulement la vie, mais la vie éternelle, la vie véritable, la vie sans fin, la vie avec Dieu, pour toujours. Et combien de personnes autour de nous se posent cette question? Alors, parfois simplement au fond du cœur, hein, sans l'avouer publiquement. La vie ici-bas n'est pas rose tous les jours, alors certains aspirent, oui, certains aspirent à autre chose, à une autre vie. Et peut-être que c'est votre cas, ce matin. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est une bonne question. Et pour la réponse à cette question, pas besoin d'inventer une réponse, pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, quelque chose à la mode ou je ne sais quoi. Pour Jésus, la réponse est déjà là, dans la parole. Elle est déjà là, la réponse. La réponse à nos questions est souvent à notre portée, sous nos yeux, on refuse simplement de la voir. Jésus demande simplement de regarder ce qui est dans la loi, loi dont le spécialiste est censé être le spécialiste, justement. Verset 26-27, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» L'homme répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors le spécialiste, il a au moins compris quelque chose, il a bien compris quelque chose, c'est que toute la loi donnée dans l'Ancien Testament, et on sait qu'elle est importante, mais que toute la loi peut se résumer à aimer Dieu et son prochain. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, Jésus dit d'ailleurs la même chose. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, on va se poser rapidement la question, pourquoi ces deux commandements résument-ils la loi? Pourquoi tout le Pentateuch, au final, est contenu dans ces deux commandements? Aime ton Dieu et ton prochain. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, et tu hériteras de la vie éternelle. Aime le Seigneur et ton prochain, et tu hériteras de la vie éternelle. Voilà ce que Jésus est en train de répondre. Alors, il suffit d'aimer? Plus besoin de faire quelque chose? Plus besoin même de croire? Il suffit d'aimer? Si c'était cela, alors peut-être que l'évangile serait plus à la mode. Plus besoin de croire, juste d'aimer. Alors ça, l'amour est une vertu que presque tout le monde, croyant ou pas, aime se revendiquer. L'amour. Pour les amateurs de Céline Dion, j'ai trouvé une chanson qui dit « S'il suffisait d'aimer, s'il suffisait qu'on s'aime, je ferais de ce monde un rêve, une réalité. » Je vous chante pas, je vous fais la version lue, slam. « S'il suffisait d'aimer, tout le monde rêve d'un monde où l'amour suffit. » Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Non, Jésus n'est pas en train de dissocier amour et foi. Bien au contraire, qui faut-il aimer en premier? Dieu, ni plus ni moins. Et dans quelle mesure? Est-ce qu'il suffit de l'aimer comme ça? Non, il faut l'aimer de tout son cœur, de son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Autrement dit, ça veut dire mettre Dieu au centre de sa vie, ça veut dire le rechercher en toutes choses, ça veut dire le suivre entièrement, ça veut dire le chérir coûte que coûte. Autrement dit, avoir confiance en lui, avoir foi en lui. Un tel amour ne peut venir que d'une foi entière et complète en Dieu. On n'aime pas autant celui en qui on n'a pas confiance. On n'aime pas celui en qui on n'a pas foi. Vous l'aurez compris, Jésus n'est pas en train de dire que la foi en Dieu n'est plus nécessaire. Il n'est pas en train de dissocier amour et foi. Les deux sont intimement liés et conduisent vers un autre aspect, l'amour du prochain. L'amour du prochain. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer ce que Dieu aime. Et j'espère que vous êtes convaincus que la foi ne transforme pas seulement notre relation verticale avec Dieu, mais également notre relation horizontale entre hommes, femmes, entre prochains. Et il serait illogique de dire « J'aime Dieu de tout mon cœur, mais sans que cela ne rejaillisse pas autour de moi, avec mon prochain. » L'amour du prochain n'est pas une option, un bonus que l'on pourrait choisir pour ceux qui veulent faire du zèle. Un peu comme si tu achètes une voiture neuve et tu vas décider d'avoir, je sais pas, allez, la petite option en plus, les enjoliveurs qui brillent que tu as choisi en plus parce que voilà. Non, l'amour du prochain dans ce texte-là n'est pas un bonus, une option pour ceux qui veulent faire du zèle. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, pour être plus précis, l'amour pour le prochain est explicitement mentionné à plusieurs reprises. L'amour doit être au cœur des relations au sein des Israélites, mais également envers les non-Israélites. On voit ça à Lévitique 19. Les non-Israélites, par exemple les Samaritains, à tout hasard. Je dis ça à tout hasard. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous le dit également, l'amour des autres est nécessaire. Alors, c'est ce que brièvement il y a dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez ces passages. Si je donne tout aux pauvres, si je fais les plus grands sacrifices, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. L'apôtre Paul dit cela dans un contexte de la vie, des dons au sein de l'Église, il nous le dit qu'il faut rechercher le meilleur des dons. C'est lequel ? C'est l'amour. L'amour envers Dieu, mais également l'amour entre mes frères, mes sœurs, entre mes semblables, mes prochains. Alors oui, vous l'aurez compris, l'amour du prochain n'est pas un bonus, mais est intimement lié également à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le point de départ de notre passage du jour, vous en souvenez. C'est ça la question initiale, la vie éternelle. Jésus répond, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Fais ainsi et tu vivras. Aime ainsi et tu vivras. Aime ainsi ton Dieu, ton prochain et tu vivras. Tu vivras éternellement. C'est ce qu'il répond. Mais ce que la loi dit surtout, c'est aime parfaitement ton Dieu et alors tu pourras vivre. Aie un amour total, entier envers ton Dieu et ton prochain, alors tu seras irréprochable et tu pourras vivre. Que ton amour soit parfait, total, alors tu mériteras la vie éternelle, tu hériteras de la vie éternelle. Un tel amour de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée est bien ce à quoi Israël était appelé et ce à quoi aujourd'hui encore nous sommes appelés. Mais qui d'entre nous peut prétendre à vivre cet amour-là? Qui d'entre nous peut prétendre avoir chaque jour, à chaque instant, un tel amour irréprochable envers Dieu et son prochain? Si le spécialiste de la loi avait été sincère, à ce moment-là, comment aurait tourné la discussion? S'il avait posé la question pour lui-même, pour son propre salut, et non simplement pour mettre Jésus un peu, pour tester un peu Jésus, alors il aurait dû avoir l'honnêteté de reconnaître son incapacité à suivre parfaitement cette loi et à avoir parfaitement cet amour. Il aurait dû reconnaître son incapacité à avoir en permanence un tel amour. Alors, il se serait repenti? Alors, il aurait peut-être reconnu qu'il ne fait pas le bien qu'il veut faire, mais qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire, pour reprendre les mots de Romains 7. Alors, Jésus lui aurait dit à ce moment-là, comme il le dit en Jean 11, « Crois en moi, et tu vivras. » Alors, Jésus lui aurait peut-être annoncé qu'il va falloir qu'il meure sur la croix prochainement. Pour cela, Jésus peut le répondre en Marc 8. Alors, peut-être qu'on aurait vu effectivement comment en direct la loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est Galates 3 qui nous dit ça. Alors, on aurait espéré que ce passage se finisse avec le spécialiste de la loi qui serait devenu un nouveau disciple de Jésus, qui se serait levé et aurait suivi Jésus, tel l'aveugle Bartimée en Marc 10. On aurait aimé que le passage se termine ainsi. Mais non, Et c'est ma deuxième partie. Notre texte ne s'arrête pas là, et le spécialiste de la loi ne réfléchit pas à sa propre condition devant la loi dont il est censé être le spécialiste. Il pose une autre question. Et c'est là qu'on voit que les gens préfèrent avoir des grands débats que de réfléchir à leur propre situation. Et c'est le piège pour nous aussi. Le spécialiste pose une nouvelle question sur l'amour du prochain, ou plus précisément, qui est mon prochain ? Est-ce qu'il sait qu'il n'est pas allé ? Est-ce qu'il a du mal sur ce point-là ? Est-ce qu'il se sait en défaut sur cette question-là ? Donc il pose la question. Est-ce qu'il préférait choisir qui est son prochain ? Fait pouvoir faire ses courses. Espère-t-il de Jésus recevoir une sorte d'autorisation d'aimer qu'une certaine partie des personnes autour de lui ? Qui est mon prochain exactement ? Je pense qu'on peut avoir les mêmes questions, nous. Avec qui dois-je faire preuve de bonté ? Avec tout le monde ? Avec tout le monde ou pas ? Oui. C'est une question. Si je suis suffisamment gentil avec toutes ces personnes-là, est-ce que ça me dispense envers celle-ci ? Envers qui dois-je faire preuve de compassion ? Qui est mon prochain ? Et c'est seulement pour répondre à cette question que Jésus donne à la célèbre parabole dite du bon samaritain. C'est seulement maintenant qu'on y arrive à cette parabole. Et c'est donc au cœur de notre deuxième partie. La parabole dite du bon samaritain commence donc par une situation tristement banale. Vous êtes d'accord avec moi ? Celle d'un homme dont on ne sait ni qui il est, ni ce qu'il fait. Un homme agressé par des brigands est laissé à moitié mort au milieu d'une route entre Jérusalem et Jéricho. Une route d'environ 30 kilomètres, une route étroite, sinueuse, pleine de dangers. Il paraît qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on y croise, c'est surtout des gens qui vous demandent des pièces pour pouvoir se faire en prendre photo sur les chameaux. Donc aujourd'hui, c'est la seule chose que vous risquez si vous allez là-bas. Mais là, c'était une route dangereuse. Et on y trouve donc notre homme à moitié mort. C'est une situation banale. Et Jésus utilise souvent dans ses paraboles des situations courantes dans lesquelles ses auditeurs peuvent se projeter, s'imaginer facilement. Alors, il y a 2000 ans qui nous séparent de cette situation, mais on imagine aujourd'hui encore cette situation. Avec un homme abandonné, avec un sans domicile fixe, avec un migrant, avec une femme isolée. Qui sait, la liste est longue. En tout cas, une personne en situation de faiblesse et qui a besoin d'aide. C'est une situation banale. Et dans notre parabole, un premier homme, un prêtre, passe. Un prêtre. Ah, c'est un professionnel de la religion, c'est un spécialiste. Il va s'arrêter. Non. Il passe. Le deuxième, un lévite, idem, il passe. Leur statut, leur fonction devrait justement faire d'eux les bonnes personnes pour s'arrêter. Mais non. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas ? Peur de perdre son temps, peur de devoir payer quelque chose, peur de se salir, c'est un homme ensanglanté, et puis de toute façon quelqu'un d'autre le fera probablement, et puis cette personne après tout je la connais pas, quelqu'un d'autre s'en occupera. On peut se reconnaître également dans ces excuses tristement banales, et je pense qu'il y a autant d'enseignements à tirer de ceux qui ne s'arrêtent pas que de celui qui s'arrête. Et justement, il y en a un qui s'arrête. Une seule personne s'arrête. Un samaritain. Et pour bien saisir cette parabole, il nous faut avoir conscience de qui est ce samaritain. Il nous faut avoir conscience du mépris, de la haine que les juifs avaient envers les samaritains. Un peuple qui vivait au nord de Jérusalem, aux portes de Jérusalem, mais exclu d'Israël. Deux communautés, au final, assez proches, mais éloignées l'une de l'autre. Certains juifs faisaient même un grand détour pour éviter la Samarie lors de leur chemin entre la Galilée au nord et Jérusalem. S'il fallait contourner la Samarie pour pas y mettre les pieds, c'était même mieux. Marc-Étienne nous l'a dit en introduction, l'évangile, Dieu n'a pas de frontières, va bien au-delà des frontières que les hommes peuvent se mettre. Jésus est évidemment plus grand que ces barrières de mépris. En Luc 9, juste avant la page d'avant le passage du jour, Jésus, pour aller justement de la Galilée à Jérusalem, non seulement il traverse la Samarie, mais il s'y arrête pour y loger avec ses disciples. On pense également à Jean 4, où Jésus rencontre une femme samaritaine autour du puits de Jacob. Dieu est plus grand que ces barrières de mépris. Et dans notre parabole du jour, justement, qui est la seule personne qui s'arrête, la seule personne à avoir le bon rôle, si j'ose dire, c'est justement un samaritain. Quel pied de nez aux spécialistes de la loi qui espéraient toutes les réponses, mais pas celle-ci. Si le samaritain s'arrête, est-ce que vous avez noté pourquoi il s'arrête? Vous l'avez noté? Il a compassion. C'est qu'il est rempli de compassion quand il voit l'homme blessé par terre. Il ne s'arrête pas par obligation, par mauvaise conscience, mais c'est vraiment de la compassion qu'il a dans son cœur, qui le pousse à s'arrêter. Et vous voyez, il utilise sa propre réserve d'huile, son propre vin, pour soigner cet homme. Sans véritable compassion au fond de nous, il est illusoire de vouloir imiter ce samaritain par obligation, par mauvaise conscience. Et ça nous pose une question. Quand vous voyez quelqu'un en situation de faiblesse, quelqu'un de plus faible que vous, quel est votre sentiment, notre sentiment, au fond du cœur? Il l'a bien mérité, tant pis pour lui, il peut avoir beaucoup de choses. La compassion. Et Dieu est un Dieu de compassion, Marc-Étienne nous l'a dit en introduction. Dieu est un Dieu de compassion. Jésus, en plusieurs occasions, fut lui aussi ému de compassion quand on lui amenait malade, boiteux, désespéré. On voit ça en Marc 1, Marc 8, les passages où Jésus est plein de compassion sont nombreux dans les évangiles. Et les appels à être nous aussi pleins de compassion sont nombreux dans le Nouveau Testament. Par exemple, Éphésiens 4, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, c'est-à-dire pleins de compassion, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous l'aurez compris, la compassion est la raison numéro un de l'attitude du Samaritain envers cet homme. Non seulement il s'arrête, mais il prend soin de lui, il paye à l'aubergiste dans l'attente de pouvoir revenir et continuer de s'occuper de cette personne. Il n'a regardé ni à son temps, ni à son argent. Et je pense que c'est une leçon pour nous ce matin. Et c'est un paradoxe, c'est qu'au final, c'est ce Samaritain qui accomplit d'une certaine manière la loi juive, qui demande de prendre soin du faible, du pauvre, du prochain. C'est le comble, hein, c'est un paradoxe. Psaume 41 nous dit « Heureux celui qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Jésus ira même plus loin que l'amour du prochain en Matthieu 5. Vous connaissez. Vous avez appris Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. » Voilà ce que Jésus enseigne, aimer son prochain et son ennemi. Et justement, ce que le Samaritain fait, il est en train de soigner un homme, on ne sait pas, mais probablement juif, en tout cas un homme non samaritain. Et quand Jésus invite le spécialiste de la loi à faire de même, verset 37, il l'invite à prendre exemple sur un samaritain, sur un ennemi, d'une certaine manière. Un samaritain, mais qui n'est pas seulement son ennemi, il est aussi son prochain. Avant de revenir à cette toute dernière phrase, justement, où le spécialiste de la loi est encouragé à imiter ce Samaritain, va, agis de la même manière toi aussi. Avant de regarder cette dernière phrase, il nous faut tirer quelques applications pratiques. Vous aurez compris, notre prochain est celui envers qui on agit avec bonté. Cela peut être un inconnu, un anonyme au milieu de la route, comme dans le cas de la parabole, mais ça peut être simplement un voisin, un enfant, un collègue, un parent, un frère, une sœur, un ami, un ennemi. Et on ne devient le prochain de quelqu'un que lorsqu'on agit avec bonté envers lui. Tant qu'on n'a pas agi avec bonté envers lui, il est notre prochain que sur le papier. Cela peut se manifester par un geste, une attitude, une parole bienveillante, une entraide. Je ne sais pas, la liste est longue. Mais tant qu'on n'a pas agi avec bonté, nous ne sommes pas encore le véritable prochain de notre prochain. Et les applications ici sont très nombreuses, dans l'Église et en dehors de l'Église. Et oui, aimer son prochain, on le voit dans le texte, peut nous coûter d'une certaine manière, en termes de temps, en termes d'argent, peut avoir des conséquences dans notre propre vie. On aimerait aimer notre prochain, mais sans que ça ait des conséquences sur notre vie. Ce texte nous montre l'inverse. Et pour illustrer cela, et pour faire une mini pause, je suis tombé sur une histoire humoristique qui montre qu'aimer son prochain peut avoir des conséquences. Rien de bien sérieux, mais il me faut vous la partager. C'est l'histoire d'un homme qui se présente au ciel et on lui demande « Est-ce que tu as aimé ton prochain ? Est-ce que tu as déjà fait un acte de compassion ?» L'homme répondit « Oui, oui. Une fois, j'ai vu une bande de motards qui est en train d'agresser une vieille dame. Je suis arrivé vers le chef de la bande et je lui ai mis un grand coup de poing dans la figure. » « Ah bon ?» Et on lui demande « Et alors, quand est-ce que c'est arrivé ?» Et l'homme répond « C'était il y a 30 secondes. » Rien de bien sérieux là-dedans, mais simplement pour dire qu'aimer son prochain a des conséquences dans notre vie et que les applications ne manquent pas dans l'Église et hors de l'Église. Ce passage nous apprend donc que l'amour du prochain, quel qu'il soit, qui il soit, n'est pas une option, n'est pas un bonus, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais que l'amour du prochain et sa mise en pratique, l'amour du prochain et sa mise en pratique sont intimement liés au salut, à la vie éternelle. Vous en souvenez, la question initiale, c'était ça, hein, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et la phrase finale, c'est « Va, agis de la même manière toi aussi. » Ne suffit pas d'être convaincu qu'il faille le faire, mais va, agis de la même manière, toi aussi. L'amour du prochain prend source dans notre amour pour Dieu, de tout notre amour, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et cet amour-là prend source dans notre foi en Dieu. Non une foi morte, mais une foi vivante. C'est la foi qui sauve, elle est vivante. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit ça. La foi qui sauve, c'est la voie vivante, la foi qui s'exprime, entre autres, par l'amour du prochain. Je lis Jacques 2, verset 14, à partir du verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », mais sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est un passage sévère, mais un passage juste. La foi vivante sauve. Et la parabole du bon samaritain n'est pas une simple leçon de morale, une leçon d'éthique nous invitant à être quelqu'un de bien. Et c'est là un piège à éviter. C'est comme ça qu'elle est connue pourtant, cette parabole, comme une de l'éthique, du social. Mais c'est pas ça dont il parle, dont c'est au cœur ici de ce passage. Cette parabole est une illustration expliquant comment l'amour du prochain et sa mise en pratique sont liés à la vie éternelle. On n'est pas dans simplement l'éthique. Il y a un second piège à éviter avec ce passage, et ça sera ma dernière partie. C'est qu'il ne faut pas chercher à aimer notre prochain avec nos propres forces. Sans quoi cette prédication serait pour vous un fardeau, une charge que vous n'arriveriez pas à porter plus de 400 mètres ou je ne sais quoi. Et on sait qu'on va jamais bien loin quand on compte que sur ses propres forces. Actuellement, avec notre grande Alice, on lui apprend à justement à essayer de penser aux autres, à pas regarder à elle-même. Mais elle, avec ses propres forces, elle n'y arrive pas. Elle pense à la récompense qu'on va lui donner parce qu'elle aura pensé aux autres. Si on le fait avec ses propres forces, on va jamais bien loin. Et le propre de l'évangile, c'est certes de nous donner un objectif d'orienter nos vies sur, par exemple, la thématique de l'amour du prochain, mais c'est également de nous donner les forces pour le faire. L'évangile est une libération, c'est une vie avec le Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous aide dans ce qu'il nous demande lui-même de faire. C'est ça l'évangile. C'est un joug léger, c'est pas un fardeau impossible à traîner. Nous héritons, et tout ça c'est possible car Christ a pris sur lui notre faiblesse et notre incapacité à être parfait devant cette loi. Lui seul, au final, a été capable d'aimer son Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et d'aimer son prochain, non pas comme lui-même, mais plus que lui-même, au point de mourir sur la croix à sa place, à notre place, nous qui sommes incapables d'être parfaits devant la loi. Et nous héritons, nous vivons la vie éternelle quand nous aimons Dieu, quand nous aimons notre prochain, quand nous mettons cela en pratique, quand notre foi devient vivante. Mais nous héritons de la vie éternelle avant tout et surtout, car Christ est mort pour nous. Romains 5 nous dit, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste? Peut-être accepterions-nous de mourir pour quelqu'un de bien? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car oui, et ce sera un de mes derniers points. À regarder de plus près, Jésus est doublement au cœur de cette parabole qu'on a lue ce matin. Non seulement il raconte la parabole, mais parce qu'il est lui-même, il fait partie lui-même de cette parabole, qu'il est lui-même le véritable bon samaritain. Relisez cette parabole avec moi sous cet angle. Nous sommes en voyage, dans ce monde, nous simples personnes, parfois anonymes, en voyage, mais depuis que le mal est entré dans ce monde, depuis Genèse 3, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors les occasions de souffrir, de désespérer, d'échouer sont nombreuses, nous laissant blessés, fatigués, à demi-morts, sur le côté de la route. Nous n'arriverons jamais à destination, là où nous devions aller. Qui peut nous sauver? La loi? Les prophètes? L'auteur de l'épître aux Hébreux nous explique longuement comment la première alliance était incapable de nous sauver, puisqu'il fallait sans cesse offrir des sacrifices encore et encore pour ses propres péchés. Même le grand prêtre devait encore et encore offrir des sacrifices. Alors la loi et les prophètes passent à côté de nous sans rien pouvoir nous sauver. Puis quelqu'un arrive. Christ. Quelqu'un qui a compassion de nous, qui s'arrête, qui nous pense, qui prend soin de nous. Il n'hésite pas à se donner pour nous sauver. Et nous savons que Christ a donné pas, non son argent, non son huile, non son vin, non sa monture, mais qu'il a donné sa propre vie en échange de la nôtre, en rançon de la nôtre. Puis Christ nous confie à une auberge, l'Église, où nous serons entourés jusqu'à son retour. Nous y vivons en attendant le retour de Jésus. Jésus reviendra, il nous l'a promis. Et sous ce regard, Jésus est bel et bien au cœur de cette parabole du bon samaritain. Et on comprend qu'il est lui le véritable bon samaritain. Ainsi, il nous faut imiter non seulement le samaritain de la parabole, mais il nous faut surtout imiter le véritable bon samaritain, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. En conclusion, on voit vraiment comment l'Évangile, c'est l'Évangile qui est au cœur de ce passage. L'Évangile, avec l'exigence de la part de Dieu dans sa loi et la perfection de l'amour envers Dieu et envers son prochain qu'il attend de nous. Mais l'Évangile avec notre incapacité à accomplir justement parfaitement cette loi. L'Évangile avec Jésus, plein de compassion envers nous. L'Évangile avec Jésus qui donne sa vie pour nous guérir, nous pardonner. L'Évangile avec Jésus, le véritable bon samaritain envers chacun et chacune d'entre nous. L'Évangile avec l'appel en retour à avoir non une foi morte, mais une foi vivante, qui se traduit par des fruits. L'Évangile avec notre prochain, dont nous voulons avoir compassion et à qui nous voulons faire preuve de bonté. L'Évangile avec notre volonté désormais d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est tout cela l'Évangile. L'Évangile par lequel nous vivons et par lequel nous héritons de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel, nous venons devant toi parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu plein de compassion, plein de grâce, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, merci parce que tu as eu compassion de nous alors que nous étions encore des pécheurs, que nous étions encore sans force, incapables, Seigneur, d'accomplir ce que tu nous demandes, d'obéir parfaitement, d'avoir un amour irréprochable envers toi et envers notre prochain. Seigneur, nous sommes coupables devant toi. Nous étions coupables, mais tu nous as sauvés, tu nous as aimés en Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour nous, tu nous as relevés. Seigneur, quelle grâce de ta part. Et Seigneur, merci parce que tu nous as redonné la vie alors que nous étions morts sur le côté de la route. Seigneur, en retour, nous voulons te demander de nous donner, Seigneur, une foi vivante, non une foi morte, mais une foi vivante, que tu nous donnes et d'avoir un amour pour notre prochain, Seigneur, qui il soit, que ce soit un ami ou un ennemi, un amour pour le prochain mis en pratique, pour faire preuve de compassion à notre tour et faire preuve de bonté à notre tour. Seigneur, et mets en nous un amour entier, total envers toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, Seigneur. Tu en es digne, tu le mérites. Et Seigneur, nous voulons t'offrir, nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours et transforme-nous encore jour après jour. Amen.